ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse, 023 depuis Genève, 023 depuis Lausanne. Si vous êtes, comme beaucoup d'entre nous, complètement révoltés par ce qui se passe en ex-Yougoslavie, si après Vukovar, Mostar et Sarajevo, après le meurtre d'une ville comme Gorazde, vous vous dites après, si vous voulez manifester pour dire halte au massacre, non à la partition de la Bosnie-Herzégovine, que les troupes de Milosevic et Karadzic se retirent de la Bosnie, que la Suisse accueille les victimes de guerre, eh bien, dépêchez-vous, une manifestation a été organisée ce mercredi à 18h à la zone piétonne du Mont-Blanc. C'est une manifestation qui est appelée par de nombreuses organisations. Vous pouvez encore y courir, zone piétonne du Mont-Blanc, et puis amener une petite radio portable pour nous écouter Radio Pleine Lune dans le 3.8 MHz, car dans quelques instants, c'est les nouvelles, suivies des coups de cœur de Marjolaine. L'Afrique du Sud change de couleur. Depuis hier, 20 millions d'électeurs se sont mis en route pour mettre fin à la suprématie blanche et au régime de l'apartheid. Et dans ces votations, les Noirs comptent bien sûr sur leurs femmes. Le rêve des femmes africaines est très concret. Les partis qui en sont conscients leur accordent une très grande importance. Ainsi, le Parti démocratique, qui autrefois a renoncé au multiracisme pour subsister, fait une très grande place dans son programme à la promotion de la femme. L'ANC également a décidé qu'un tiers au moins de ses listes de candidats, tant provinciales que nationales, seraient occupées par des femmes. Il y a même d'ailleurs une formation uniquement de femmes, ça s'appelle le Parti des femmes, qui cependant accueille volontiers des hommes, mais qui est essentiellement axé sur des objectifs féminins. Tout autant que les hommes, sinon plus encore, elles ont été l'objet de beaucoup d'attention dans la période d'instruction électorale, comme dans la plupart des pays, mais peut-être un peu plus ici, parce que c'est la première fois, on compte sur elles pour conduire les hommes aux urnes. En Angola également, tandis que les hommes font la guerre, les femmes tiennent le pays à bout de bras, une bagarre héroïque dans le fracas des bombes. La guerre a complètement désorganisé le pays. Comme l'armée recrute tous les garçons au-dessus de 14 ans, les femmes ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour faire bouillir la marmite et faire tourner au ralenti l'économie chancelante du pays. Elles sont de plus en plus nombreuses, même dans les villages, à porter le noir couleur du deuil, de plus en plus nombreuses aussi à soigner leurs blessures dans des hôpitaux misérables, car dans la population civile, elles sont les plus exposées. On compte 3 femmes blessées par des mines pour un homme atteint. Pendant que les hommes se battent, les femmes font marcher le pays. On les trouve dans les chandries de blé et dans les marchés aussi, qui attirent chaque jour des centaines de milliers de personnes. 2/3 au moins des stands installés au marché ou en rue sont tenus par des femmes. Comme dit l'une, « Depuis que mon mari a été enrôlé dans l'armée, je suis à la fois la femme et l'homme de la maison ». Et même les femmes qui n'avaient pas de travail, bien sûr, se sont débrouillées. En ces temps de guerre, le petit commerce est l'un des seuls débouchés accessibles aux femmes, avec la prostitution, bien sûr, qui fleurit dans un pays bourré de soldats et qui rapporte quelques 15 francs par mois, le salaire d'un fonctionnaire. Mais n'oublions pas que l'Angola est voisine de la Zambie, où 20 à 25% des femmes en âge de procréer sont séropositives. Aussi, la prostitution apparaît-elle comme l'un des chemins les plus directs vers la mort. Elles font également un grand travail dans les tâches de cambistes, celles qui changent l'argent et qui remplacent les banques officielles. Depuis un an, ce sont les femmes qui se chargent de ce troc qui se passe dans la rue. Et il y a des millions de dollars qui passent par les mains de ces changeuses qu'on appelle les Kingala. En tout cas, sans cet argent, les Angolais seraient pris à la gorge. Il faut rappeler que selon l'ONU, c'est la guerre en Angola est la guerre la plus meurtrière de la planète. 2 millions de réfugiés, des centaines de milliers de personnes coincées dans leur ville. Chaque jour, 1 millier de morts, victimes de soldats, de la maladie ou de la famine. C'est également une des guerres les plus anciennes, puisqu'elle a commencé en 1961. Rappelons également que l'Angola pourrait être un pays très riche, puisqu'il a du pétrole et des diamants. En ex-Yougoslavie, au fond de l'horreur, le trafic d'organes. La justice italienne tente de démêler l'une des plus sombres affaires surgies de l'enfer yougoslave. Un racket bien organisé approvisionne cliniques et hôpitaux italiens en œil prélevé sur les victimes de la guerre pour leur cornée. De la Bosnie-Herzégovine à l'Italie, chaque semaine, des hommes importent l'horreur, s'enrichissent en exploitant une guerre cruelle. À Sarajevo, à Mostar, dans les villes déchirées par un conflit absurde et sans merci, où les morts se comptent désormais par milliers, le trafic de cornets a trouvé une terrible source d'approvisionnement. Entre les moments où les prélèvements sont effectués sur les cadavres d'hommes et de femmes morts sans savoir pourquoi et celui où ils parviennent dans les salles chirurgicales italiennes, il faut aller très vite, moins de 48 heures, délai maximal au-delà desquels les tissus humains sont détériorés. Un trafic odieux qui vit de l'espoir de tous ceux qui attendent une opération qui pourrait leur rendre la vie. Ce trafic n'obéit à aucune règle et oblige à donner des réponses alarmantes à des interrogations inévitables. Qui pourrait gérer une marché d'un tel ampleur, sinon une organisation criminelle déjà rodée et ramifiée? La mafia se diversifie après les crimes autour de l'immobilier, la drogue, maintenant le trafic d'organes. L'enquête sur le trafic des cornets a débuté l'été dernier à la suite de la plainte de 2 auxiliaires travaillant à la morgue d'un hôpital qui avait découvert que plusieurs cadavres avaient les yeux qui manquaient. Toujours ex-Yougoslavie, où les femmes parfois jouent un rôle pas très très glorieux et très sympathique. Face à l'agression en Bosnie contre Gorazde, le jeudi 21 avril, un convoi de casques bleus et de médecins de l'ONU qui devait rejoindre la ville pour essayer de faire sortir les blessés, a été bloqué par des femmes et des miliciens serbes. Les 21 transports de troupes et les 29 camions bâchés partis de l'aéroport de Sarajevo avec 100 casques bleus, français, ukrainiens et britanniques, et des médecins d'un bataillon nordique ont été bloqués par quelques 350 femmes et enfants serbes à Rogatica, à une vingtaine de kilomètres de Gorazde. On voit là aussi également la force de la désinformation, puisque les seuls messages qui passent pour les Serbes, c'est que les musulmans vont tous les massacrer. À l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, l'Ukraine refuse de fermer toujours la centrale, malgré que 2 incidents ont encore lieu cette semaine. Des experts se sont réunis à Vienne pour débattre l'avenir de la centrale et essayer de proposer une voie vers la fermeture. À Singapour, la couverture sociale de la femme fonctionnaire ne s'étend pas à ses enfants ni bien sûr à son mari. Remettre en cause cette inégalité serait, selon le gouvernement, porter atteinte à la cellule familiale. Les femmes, cependant, protestent contre ce système de prestations. Les femmes fonctionnaires doivent-elles bénéficier du même régime d'assurance maladie que les hommes ? Le débat et les revendications autour de cette question font rage à Singapour et font petit à petit avancer la cause des femmes. L'argument du gouvernement contre l'égalité des prestations repose exclusivement sur la notion du patriarcat, puisque c'est, selon eux, l'homme qui entretient avant tout la famille, car, dit un des personnes du gouvernement, c'est ainsi que notre société est structurée, il y serait imprudent de toucher à cette structure. Cependant, de nombreuses organisations de femmes interpellent le gouvernement à de nombreuses reprises pour essayer de transformer. Il s'agit surtout du plus important groupe de femmes, le Conseil des organisations des femmes de Singapour, qui a désormais décidé de poser le problème directement devant les décideurs. Pour le ministère des Finances, cependant, il est dangereux d'approcher à l'égalité car, dit-il, nous devrions veiller à ne pas ériger en doctrine la recherche d'une similitude des rôles entre les deux sexes. Il a ajouté que dans les pays occidentaux qui ont adopté certaines politiques de protection sociale, le noyau familial a été ébranlé. Une des présidentes de l'Organisation des femmes s'étonne cependant et se demande comment l'égalité des prestations pourrait mettre en danger la famille, soutenant au contraire que cela constituerait pour celle-ci un avantage supplémentaire. L'inégalité déconsidère la contribution des femmes au financement de l'assurance maladie, ce qui est injuste dans un système fondé sur l'égalité des chances, a-t-elle déclaré. En Inde, des femmes partent en guerre contre l'alcool. Des villageoises indiennes ont remporté une grande victoire. Elles ont réussi à imposer la prohibition d'un alcool dans l'Andhra Pradesh, un état pauvre du sud du pays où l'arak, l'alcool local, fait des ravages. Chez les femmes systématiquement battues, volées, violées par leurs maris ivres et incapables de subvenir aux besoins de la famille, chez les hommes aussi, dont la santé est menacée par l'alcool. Alors les femmes ont assiégé les points de vente, barré les passages aux camions de livraison, bravé les autorités régionales qui tirent profit de ce commerce. Malgré la répression de la police qui ne s'est pas gênée pour tabasser ces militantes, issues pour la plupart des basses castes, elles ont tenu bon, allant jusqu'à refuser de nourrir leur mari qui avait trop bu. Leur mouvement a démarré en 1992 dans un petit village de l'Uttar Pradesh et ce n'est pas 2 ans plus tard, il a abouti donc à l'interdiction de l'alcool. Ce n'est pas fini, il a gagné la région voisine de Karnataka, où il est question également d'interdire l'arak. En Inde, 3 femmes qui avaient été arrêtées pour vol ont été tatouées sur le front du mot de pickpocket. C'est la police qui a procédé à ce tatouage. Puisque ces femmes étaient accusées de vol. Le tribunal de la ville a condamné cependant les autorités à verser à ces femmes quelques 7000 francs français nécessaires pour payer les frais de chirurgie esthétique indispensables pour faire disparaître cette marque infamante. En France, les déportés homosexuels sont jugés indésirables. Ils demandaient à être associés à la journée de la déportation, mais l'association des déportés a refusé. À leur demande d'être associés à cette cérémonie, au mémorial, en présence d'Édouard Balladur, les animateurs du mémorial de la déportation homosexuelle se sont vus répondre par l'Union des associations des déportés internés et familles des disparus. Je cite « Notre service d'ordre s'opposera de toute son autorité à votre intrusion ». Le Parti socialiste a décidé d'appuyer la démarche des associations homosexuelles ainsi que d'autres partis, les Verts entre autres. La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas admettre officiellement la déportation homosexuelle. Il faut savoir que dès 1930 en Allemagne, les hommes homosexuels étaient déportés avec marqué d'un triangle rose ou d'une barrette bleue des asociaux. Et cela a duré jusqu'en 1945 dans toute l'Europe avec environ 350 000 victimes. Et même 1 million d'après certains historiens. Mais cependant, donc, malgré tout le nombre, l'association des déportés considère que seuls les bons déportés peuvent manifester. Toujours en France, à l'occasion du cinquantenaire du droit de vote, Madame Veil, ministre, s'est prononcée pour un quota de représentation politique des femmes. Simone Veil, ministre des Affaires sociales, a déploré, au cours d'un colloque organisé par Charles Pasqua à l'occasion du cinquantenaire du droit des femmes, la sous-représentation de ces femmes dans la vie politique. Il faut savoir qu'il y a moins de députés aujourd'hui qu'en 1945. Mais Simone Veil s'est prononcée pour une réforme constitutionnelle instituant un quota progressif de représentation féminine dans les instances électives. D'ailleurs, à propos de cet anniversaire, des associations de femmes se sont adressées à une société de marketing tenue et dirigée par des hommes pour faire un petit film de pub pour pousser la promotion des femmes dans la vie politique. Et ce petit spot est sorti où on voit uniquement des hommes, deux hommes qui discutent dans un bistrot faisant des commentaires des plus franchouillards et osés sur le physique des femmes qu'on ne voit jamais. Et à la fin, un panneau apparaît en disant « Pour 20 hommes politiciens, il y a une femme. Demandez-vous pourquoi ?» Toujours en France, les insuffisances budgétaires provoquent des drames dans les centres d'hébergement qui ont manifesté contre la baisse de leur crédit. Il y a entre autres une œuvre qui est mise en danger, c'est l'œuvre des gares, une association qui s'occupe des femmes seules et qui est obligée de puiser dans ses fonds propre pour survivre. L'œuvre des gares est donc située dans 3 gares parisiennes et son SOS Voyageurs accueille toute personne en difficulté. Il s'agit donc de femmes souvent avec des enfants. Et puis, très brutalement, comme le dit un des représentants de l'œuvre, la DAS a brusquement considéré que nous n'avions pas une vocation thérapeutique, alors que toute une partie de notre travail de réinsertion consiste à redonner un équilibre à des femmes qui ont souvent été victimes de violences. Et maintenant, les centres sont donc en danger. C'est à l'association de trouver des propres financements. Erreur de jugement en Grande-Bretagne. Violer une nonne est un plus grand crime que violer une prostituée. Pour avoir émis un tel avis lors d'une réunion devant les membres de la cour, le procureur du Commonwealth, Michael Rosenes, s'est fait sérieusement rappeler à l'ordre. La personne, dit-il, qui agresse une religieuse dans la rue, connaît sa fonction, sait qu'elle a préservé sa virginité pendant des années. C'est donc en connaissance de cause qu'elle la viole. Bien sûr, on ne peut violer qu'une vierge. Suivant l'échelle de l'appréciation du magistrat, la sentence devrait donc être conditionnée au type de la victime, car, dit-il, la personne abuse de quelqu'un dans la rue sans savoir qui commet un crime de moindre importance, bien sûr, puisqu'on ne sait pas si elle est vierge ou pas. Idem, bien sûr, pour le client qui prendrait un extra gratuitement, le viol étant considéré comme une passe presque normale avec une prostituée. Le procureur s'est donc rétracté après avoir essuyé les remontrances du ministre de la Justice. Un rapport d'une commission non gouvernementale sur la nutrition au sein dénonce les drôles de pratiques promotionnelles des fabricants de lait pour nourrissons. La France doit effectivement, jusqu'au 10 juin, se mettre en conformité au niveau de la législation avec les dispositions d'une directive européenne qui date de 1991 concernant la commercialisation des préparations alimentaires. Face au déclin de l'allaitement maternel, aux conséquences sanitaires désastreuses provoquées dans les pays du tiers-monde par la promotion intensive des laits et poudres pour bébés, un code international a été élaboré en 81 déjà par l'OMS. Mais ce code fixait des objectifs de 70% de bébés qui seraient allaités au sein à la sortie de la maternité et interdisait le stock, les échantillons gratuits et posait des conditions au succès de l'allaitement naturel. Une directive européenne de 1991, 10 ans après, est cependant encore moins contraignante que les normes de l'OMS, a permis d'encadrer juridiquement ces pratiques publicitaires abusives des fabricants de lait industriel. Mais un rapport toujours confidentiel de la branche française du Réseau international pour la nutrition infantile, le IPFAN, une organisation non gouvernementale, conclut que la commercialisation des laits industriels pour bébés génère chaque année un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de francs. 6 grands groupes alimentaires se partagent le marché, détenu à 40% par Nestlé. Ces grands groupes usent de pratiques promotionnelles d'une rare efficacité, stock de lait livré à titre gracieux aux maternités, distribution d'échantillons gratuits aux mères, primes pour entrer dans les tours de lait des maternités, avantages en nature offerts aux pédiatres, etc. Le coût global de cette opération de promotion va entre 10 et 20% du chiffre d'affaires, soit environ 200 millions de francs. Le rapport de l'IPFAN explique, exemple à l'appui, que des colis naissances offerts dans les maternités sont rarement innocents. En outre, les primes négociées parfois 2 ans à l'avance et versées tour à tour par les fabricants pour inciter les établissements de santé à utiliser leur lait oscilleraient dans une fourchette de 100 à 300 francs par bébé, avec des pointes allant jusqu'à 1000 francs pour certains établissements. Pour toucher le maximum d'argent, poursuit le document, beaucoup de maternités déclarent d'office tous les bébés comme étant au lait industriel, qu'ils soient allaités au sein ou non. La concurrence interne implique également d'étranges équations. Dans les centres de protection maternelle et infantile, 6 ou 8 bébés sont convertis à une marque de lait industriel. Ça équivaut à un coussin portable à langer. Tandis que dans le secteur privé, chez des pédiatres, 10 bébés convertis, ça équivaut à un voyage sur une croisière. Actuellement, précise l'IFPAN, les fabricants tablent sur un taux d'environ 50% de femmes utilisant du lait artificiel dès la naissance. Et parmi celles qui ont choisi l'allaitement, les 70% qui sont censés allaiter au sein arrêtent très vite en partant de la clinique. Les campagnes des organisations internationales, notamment de nombreuses initiatives, démontrent la vertu du lait maternel pour l'enfant à venir, auront bientôt besoin de force de loi pour continuer. En Suisse, 2 femmes partent à l'assaut du gouvernement d'Appenzell, une enseignante et une psychologue. Elles ont tous les deux 47 ans et toutes les deux sont du parti radical. Une a déjà fait de la politique, l'autre est novice. Elles se présentent au gouvernement de l'Appenzell Rodextérieur, ce demi-canton où, vous vous souvenez, jusqu'en 89, les femmes n'avaient ni le droit de vote à la Landsgemeinde, ni celui d'être élues à l'échelon cantonal. Depuis 89, même certains hommes refusent d'aller voter, estimant que leur Landsgemeinde est dénaturée. Voilà qu'un vent nouveau souffle sur Appenzell, puisque dimanche, il pourrait être le second canton après Berne à avoir 2 conseillères d'État. On ne peut cependant pas parler d'une vague féministe qui déferlerait sur les collines appenzelloises. Ce n'est pas le style de la région. Les femmes, plus discrètement qu'ailleurs, s'y sont pourtant organisées en différents mouvements, dont un forum de femmes très actif. D'ailleurs, une des candidates, Alice Scherer, se dit « Je ne suis pas féministe. Je suis bien sûr préoccupée par les questions féminines, mais dans mes activités, je m'engage pour chaque homme, femme, enfant et adolescent. » Le vent pourtant souffle, puisqu'au printemps dernier, 10 députés sur 63 élus femmes sont entrées au Parlement cantonal. Une femme a été élue pour la première fois à la Cour suprême. C'est également une femme qui est à la tête de l'exécutif de l'Église protestante. On trouve partout des listes de soutien aux candidates. Les femmes se rencontrent, tissent des liens entre elles en commission parlementaire lors des discussions sur la réforme de la Constitution. On a même évoqué les quotas. Nombre d'Appenzellois pensent que 2 femmes, cependant, d'un coup, c'est trop. Et ainsi, on s'attend plutôt à l'élection d'une seule femme et d'un homme. Tandem de choc à la tête de l'Union des syndicats suisses, Christiane Brunner et Vasco Pedrina pourraient se partager la direction de l'organisation fêtière des syndicats. La crise frappe de plein fouet le mouvement syndical en se proposant de partager sa présidence. Les dirigeants du CIB, le syndicat du bâtiment et de la FTMH, le syndicat de l'horlogerie et de la métallurgie, entendent dynamiser le syndicat en mettant une sourdine à leurs divergences pour faire front à la politique de dérégulation patronale. Car face au durcissement des positions patronales, la remise en cause des conventions collectives et des acquis de la sécurité sociale notamment, l'heure ne semble plus à des vaines querelles entre syndicats durs et syndicats mous. Le président du CIB, Vasco Pedrina, déclare que la candidature commune est un signal à l'intérieur comme à l'extérieur de notre volonté d'explorer ensemble des nouvelles voies. Christiane Brunner confirme, dit-elle, je cite, « Nous voulons tirer à la même corde dans cette situation difficile. Nous représentons les deux une nouvelle génération. Notre approche se veut désormais globale. » Sa grenouille dans le sport, cette footballeuse de la fédération Wetzwil-Bonstetten dans le canton de Zurich ont provoqué un beau scandale en révélant qu'elles étaient homosexuelles. Le président de cette équipe féminine, soucieux de moralité et contraint à prononcer la dissolution du club, a expliqué, je cite, « penchants anormaux qui nuisent à la réputation du club ». C'était les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, ondes femmes, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite.
Walk down by the daughter.